Le livre de Ruth est une curiosité dans la Bible. En effet, il est très court, il raconte une belle histoire, une histoire un peu simplette, je dois dire, et il ne parle jamais de Dieu. Alors que peut-on en faire? La première approche, c'est de dire on ne peut pas en faire grand-chose, si ce n'est d'en faire des romans ou des opéras, voilà, puisqu'il y a une histoire, là au moins il se passe quelque chose, mais théologiquement, ce livre semble assez pauvre. Dans une deuxième approche, on peut en tirer un certain nombre de leçons, ce que l'on fait assez volontiers dans les écoles bibliques pour les enfants. En effet, on peut y voir un exemple moral, en quelque sorte. Ruth est donnée en exemple comme une jeune femme remarquable qui a plein de qualités, de cœur, de générosité, de dévouement. Et ainsi, elle est un exemple, je dirais, moral de quelqu'un qui est un modèle pour nous, en quelque sorte. Cela n'est déjà pas sans intérêt, en particulier pour tous ceux qui imaginent que la Bible serait machiste. On voit que lorsque quelqu'un est donné en exemple dans la Bible, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Et il y a en effet assez peu de gens exemplaires dans la Bible. La plupart des personnages bibliques ont tous leur zone d'ombre. Et Ruth n'est pas du tout dans ce cas, elle est simplement sans défaut, dirais-je. Alors il est vrai que l'histoire est assez édifiante. On voit Ruth dans une situation désastreuse, catastrophique, et elle ne se plaint pas. Elle fait preuve d'un grand courage, et au lieu de penser à elle-même, elle pense aux autres, plus qu'à elle-même. Et puis elle sera finalement récompensée de son amour désintéressé, récompensée de son travail, de son courage, et elle va devenir ainsi la première femme du pays, la plus riche, et elle deviendra aussi la grand-mère de David, c'est-à-dire une des ancêtres du roi, et l'ancêtre du Christ, puisqu'en effet, Ruth est signalée dans la généalogie du Christ au début de l'évangile de Matthieu. Cela nous montre non seulement l'importance de ces valeurs morales que je viens d'évoquer, mais aussi qu'il ne faut jamais désespérer et que du bien peut toujours survenir dans toute situation, dans tout mal, dans toute situation difficile ou catastrophique dans laquelle nous pouvons sembler être. Eh bien, les choses peuvent basculer, les choses peuvent tourner autrement et du bien peut survenir sans que nous l'ayons cherché et souvent de là où nous ne l'attendions pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun calcul dans la démarche de Ruth de partir avec sa belle-mère. Aucun calcul d'aller glaner dans les champs pour essayer de nourrir elle et sa belle-mère. Et c'est simplement tout à coup que les choses basculent parce que Boaz fait attention à elle. Et donc, cette espèce d'inattendu du bien qui peut survenir est quelque chose d'essentiel parce que je crois que dans toute vie, il faut toujours garder cette forme d'espoir que le bien peut arriver d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est d'être disponible et de savoir l'accueillir là où il vient et quand il vient. Donc la petite leçon morale, c'est celle-là. Gardez patience, travaillez courageusement, faites ce que vous pouvez faire pour les autres sans vous préoccuper de vous-même, et vous verrez peut-être que comme Ruth, eh bien, les nuages peuvent s'écarter et du bien peut survenir, du bien que vous n'attendiez pas. C'est déjà pas mal et ça suffirait, je dirais, amplement à justifier l'existence de ce livre. Mais je crois qu'on peut en dire encore plus et il y aurait de nombreuses entrées dans ce livre. Je vous en propose simplement une parce que je me suis dit que c'était quand même un petit peu juste de ne donner qu'une justification d'histoire à morale bien pensante à un livre de la Bible, et je ne pense pas qu'il y ait dans la Bible de place pour une simple petite histoire bien morale. La preuve, c'est que Ruth est citée dans le Nouveau Testament. Elle est donnée, comme je vous l'ai dit, comme ancêtre du Christ. Et une autre preuve, c'est la place très étonnante que les Juifs ont donnée au livre de Ruth dans le canon biblique. Ça, c'est étrange parce qu'au départ, dans l'ordre des livres, selon l'ordre hébraïque, le livre de Ruth est mis tout à la fin, c'est-à-dire après même le Cantique des Cantiques. Donc il y a les livres sérieux, je dirais, et puis à la fin, on met les livres un petit peu secondaires. Et puis, un peu plus tard, dans le nouvel ordre des livres, qui a été celui des Septantes, le livre de Ruth a été mis tout au début, c'est-à-dire juste après le Pentateuque et le livre des Juges, en plein milieu des livres historiques. Et ça, c'est très étonnant. Pourquoi les Juifs ont-ils mis au milieu des livres qui leur sont les plus sacrés, tout à coup, cette histoire du livre de Ruth? Voilà qui est bien curieux. Et autre chose curieuse, c'est que dans la tradition juive, le livre de Ruth est lu pendant la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire une des fêtes absolument fondamentales dans le judaïsme, où l'on célèbre le don de la loi, le don de la Torah. Et voilà qui est curieux. Au moment où l'on célèbre le don de la loi, on lit l'histoire d'une femme qui n'est pas juive et qui donc n'est pas soumise à la loi. Mais nous y reviendrons parce que c'est certainement un point fondamental. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce livre de Ruth me semble être, je pourrais dire, ou peut-être lu plutôt, comme un chemin de fécondité. En effet, on a au départ une situation de base qui est que le père et les maris sont morts, il n'y a pas de descendance, et donc il n'y a plus aucun moyen d'avoir des descendants. Il y a la belle-mère, les deux filles, les deux belles-filles plutôt, et la situation est totalement stérile, la situation est bloquée, et elle ne mène à rien d'autre qu'à la misère. Et voilà que dans la situation finale, Ruth devient génératrice de David et de Jésus. Et donc on passe d'une situation de stérilité, comme souvent dans la Bible, à une situation de fécondité. Alors je ne voudrais pas là faire l'apologie de toutes les méthodes scientifiques pour donner la fécondité à ceux qui ont du mal à avoir des enfants. Tout le monde sait que dans la Bible, la question de la fécondité n'est pas du tout liée à la génération sexuée, en quelque sorte. Mais la fécondité, c'est le fait de savoir si sa vie peut transmettre quelque chose, si elle peut donner naissance à quelque chose au-delà de nous-mêmes, ou si notre vie reste renfermée sur nous-mêmes. La stérilité dans la Bible, c'est l'auto-centrement, d'où rien ne peut sortir, quand on reste centré sur soi et qu'on est incapable de transmettre, de donner et de partager. Et la fécondité dans la Bible, au contraire, c'est la capacité à donner, à transmettre et à envoyer en mission, je dirais, d'autres qui sont un peu comme nos enfants spirituels. Et cette idée a évidemment été grandement développée dans le Nouveau Testament, puisque Jésus dit lui-même que nous sommes, nous, chrétiens, enfants d'Abraham, alors que peu de nous, certainement, ne sont de sang juif. Et donc nous sommes enfants d'Abraham, nous sommes descendants d'Abraham, non pas physiquement, mais spirituellement. Et c'est ça la fécondité qui compte dans la Bible. Alors comment arriver à donner à sa vie cette fécondité qui est, je crois, la clé de la vie et la clé même du bonheur et la clé de ce que l'on pourrait appeler le salut? Il y a une réponse dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Cette réponse, c'est la loi et la pratique religieuse. En effet, c'est ça le sens de l'alliance dans l'Ancien Testament, où Dieu dit à Abraham ou à Moïse, enfin aux Juifs en général, il le dit plusieurs fois, « Soyez fidèles à moi, obéissez à ma loi, et votre descendance sera nombreuse comme les étoiles dans le ciel ou comme le sable dans la mer. » Et donc la logique, je dirais, juive, c'est de dire « Vous voulez de la fécondité, eh bien obéissez à la loi, appartenez au peuple juif, en quelque sorte, et soyez fidèles à votre Dieu. » Or voilà que, au milieu de ces livres de l'Ancien Testament qui n'arrêtent pas de répéter cette logique de l'obéissance et de l'alliance, on nous donne comme exemple Ruth, qui elle n'est pas juive, qui visiblement n'est pas très religieuse, enfin elle passe pas son temps à faire des sacrifices à l'Éternel, et je dirais même que les questions religieuses, elle s'en désintéresse suffisamment pour dire à sa belle-mère « Écoute, je m'en fiche un peu, ton Dieu sera mon Dieu », qu'il ne faut pas comprendre comme un acte d'amour, enfin j'en sais rien. En tout cas, ça prouve qu'elle n'est visiblement pas très attachée à la question de la religion. Elle est prête à adhérer un peu à n'importe quelle religion du moment que ça fait plaisir à sa belle-mère, en quelque sorte. Avouez que ce n'est pas la preuve d'un sentiment d'appartenance très fort. Et donc Ruth n'est pas très religieuse. Elle ne cherche pas à obéir aux 613 commandements du Pentateuque. Apparemment, je pense qu'elle les ignore, probablement, enfin en tout cas, elle ne cherche pas grand-chose. Mais simplement, elle agit par amour, en se donnant elle-même, je dirais, sans chercher Dieu, mais en se donnant simplement à celle qui était là, qui s'est trouvée être sa belle-mère. Elle a besoin d'aide et elle l'aide. Et c'est tout. Et c'est à elle que sera donné l'honneur d'être la grand-mère de David et l'ancêtre du Christ. Avouez qu'il y a là un paradoxe absolument étonnant. Paradoxe étonnant qui est qu'après tous ces livres sur la loi, sur les commandements, sur l'alliance, sur l'appartenance, sur l'obéissance, voilà que la Bible nous donne l'exemple d'une vie réussie, d'une vie accomplie, et voilà que justement cette vie est réussie et accomplie sans la loi, sans l'alliance et sans l'appartenance au peuple saint. On aurait mieux compris que la Bible nous donne après la loi l'exemple d'une jeune femme pieuse, d'une femme pétrie de religion, d'obéissance, de fidélité, qui réussirait à se tirer d'affaires grâce à sa pratique, grâce à son appartenance, grâce au temple, grâce aux lévites, grâce aux sacrifices. Mais non, c'est tout le contraire. Aucun lévite, aucun temple, aucun sacrifice, aucune appartenance au peuple élu, aucune pratique religieuse, et voilà une vie réussie. C'est absolument étonnant. Et cela nous montre effectivement que le chemin de la vie, eh bien, c'est avant tout l'amour. C'est le don de soi, c'est l'ouverture sur l'autre, c'est le travail désintéressé pour l'autre. C'est ça l'amour, finalement. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement évangélique. Parce que l'Évangile et le Christ a passé son temps à nous rappeler que la chose la plus essentielle de notre vie, ce n'était pas l'acte religieux, ce n'était pas le fait d'être juif ou d'être chrétien, mais que l'essentiel, c'est l'amour qui s'y trouve. Je vous ai lu tout à l'heure, pour évidemment comme illustration de cela, en Matthieu 25, le jugement des nations, quand le Dieu sépare les bons des mauvais, dit-il. D'ailleurs, petite parenthèse, il sépare les brebis des boucs. Les bons, c'est les brebis, les mauvais, c'est les boucs. Donc vous voyez que la Bible, encore une fois, est loin d'être machiste, puisque ceux qui sont montrés en exemple, ce sont les brebis et pas les boucs. Mais passons. En Matthieu 25, là encore, ils disent « Venez vers moi, vous les élus de mon Père. » Et ils disent « Mais pourquoi les élus, on ne te connaît même pas ?» Il dit « Mais si, vous avez donné à manger à celui qui avait faim, visité celui qui était abandonné et en prison, vous aviez aidé celui qui était pauvre. » Et sans le savoir, eh bien, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, finalement, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce jugement des nations dans Matthieu est fondamental, parce que vous voyez qu'il ne s'y trouve aucun critère d'appartenance, je dirais, à une religion, aucune confession de foi. Il ne dit pas « Félicitations, vous êtes sauvés parce que vous avez bien cru à la Trinité et que Jésus était le Fils de Dieu ou Dieu ». Non, vous avez aimé, vous avez aidé, vous avez sauvé, vous êtes sauvé. C'est terminé, c'est comme ça. Parce que l'essentiel, finalement, ce n'est pas l'appartenance, ce ne sont pas les confessions de foi, ce n'est pas la pratique religieuse. L'essentiel, c'est ce que l'on vit dans sa vie. L'essentiel, c'est de se tourner vers les autres. L'essentiel, c'est d'aimer. Et encore, dans l'Évangile de Luc, la même chose, la parabole du bon samaritain. Celui qui est montré en exemple, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le juif. C'est le samaritain, le moins que rien, et dont Jésus dit « Faites comme lui ». C'est le samaritain qui est montré en exemple. Donc vous voyez bien que l'Évangile continue dans cette lignée de dire que la seule chose importante, c'est l'amour, l'amour du prochain, l'amour que nous pouvons donner, et que tout le reste est secondaire. Mais ne nous arrêtons quand même pas là, parce qu'il ne faudrait pas en conclure que la religion servirait à rien. D'abord parce que le jugement des nations, Matthieu 25, ne se trouve pas, c'est pas l'ensemble de l'Évangile. Il se trouve à la fin de l'Évangile. Et il se trouve après 24 chapitres où l'Évangile dit « Soyez fidèles, obéissez, je dirais, à la volonté de Dieu, cherchez Dieu. » Et donc, ce n'est qu'à la fin où Jésus, après, ou l'évangéliste en tout cas, après avoir montré toute une prédication extrêmement complexe de Jésus invitant à se rapprocher de Dieu, c'est à la fin seulement qu'il dit « Bon, écoutez, maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est bien, mais finalement, retenez une chose, l'important, c'est finalement d'aimer son prochain. Et tout le reste est secondaire. » Mais Jésus ne commence pas par là. Il ne dit pas « On se fiche de Dieu, on se fiche de la religion, on se fiche de tout, aimez et ça suffira. » Il dit cela à la fin pour recentrer, pour mettre en perspective, je dirais. De même, la Bible ne se réduit pas au livre de Ruth. Et il serait faux de penser que le livre de Ruth résume l'ensemble de l'Écriture. Le livre de Ruth se trouve après la loi et avant les autres livres historiques, après la loi et avant le livre des juges. Le livre des juges, c'est le livre qui montre comment on peut gouverner le peuple en étant fidèle à la volonté de Dieu et à sa loi. Et c'est au milieu que le livre de Ruth se trouve, non pas pour remplacer tout le reste, mais pour mettre le petit grain de sable qui évite que l'on fasse une lecture simpliste du reste. Le livre de Ruth n'annule pas le reste de l'Écriture, il lui donne du relief, il le met en perspective et il montre simplement qu'il faut remettre à sa juste place, je dirais, l'obéissance, l'appartenance, la pratique religieuse par rapport à l'amour du prochain. Il est vrai que, de toute façon, l'Ancien Testament, comme le Nouveau d'ailleurs, sont toujours dialectiques. Et il y a d'une part la fidélité, je dirais même la pratique religieuse, et puis il y a l'amour du prochain. Et on se trouve toujours un peu en dialectique entre ces deux pôles. Dans l'Ancien Testament, c'est très clair, il y a la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qui sont la loi, la loi, la loi, et rien que la loi. Et puis il y a les psaumes et les prophètes qui disent « Ce que Dieu veut, c'est l'amour ». Et ce ne sont pas les sacrifices, et qui donc va complètement du côté de l'intégration, je dirais, et de la conversion du cœur. De même, dans le Nouveau Testament, il y a ce passage de Matthieu 25 qui dit qu'il faut aimer les pauvres et aimer les autres, son prochain, plus que d'aimer le Christ. Mais il y a aussi cette célèbre femme au parfum qui, elle, verse son parfum sur les pieds de Jésus, donc fait un acte purement religieux, que les disciples lui reprochent en disant « On aurait pu vendre le parfum pour le donner aux pauvres » et Jésus dit que la jeune femme a bien fait. Et donc tout à coup, il s'agit de mettre en valeur eh bien, celle qui a fait un acte religieux et qui n'a pas pris soin du prochain. Et Jésus dit même de cette femme-là « On parlera encore et encore pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est elle qui est montrée en exemple. Vous voyez donc que la chose est complexe et que Dieu n'est pas dans une, je dirais, dans une requête évidente où il faudrait tout miser d'un côté ou tout miser de l'autre. Ce qui est vrai, c'est que, je vous l'ai dit, Ruth, qui est placée par le nouveau canon de la Bible en plein milieu de la loi, nous donne une leçon absolument exceptionnelle et intéressante parce qu'elle redonne justement de l'importance à ce pôle de l'amour du prochain détaché de la pratique religieuse. Je vous l'ai dit, dans l'ancien canon biblique, Ruth était reléguée à la fin. Ensuite, les Juifs l'ont remis en plein milieu de la loi, ce qui est un message extraordinaire. Curieusement, dans les Bibles catholiques, Ruth est reléguée à la fin, de nouveau, c'est-à-dire qu'on revient à l'ancien canon et Ruth est remise à la fin. Les Bibles protestantes ont toujours maintenu Ruth au milieu de la loi et je pense que ce n'est pas sans signification. Je vous ai dit aussi que le livre de Ruth est lu par les Juifs lors de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire lors de la fête du don de la loi. Ça aussi, c'est d'une audace extraordinaire. Et on peut se demander pourquoi. Alors aujourd'hui, je crois que les Juifs d'aujourd'hui disent que on lit le livre de Ruth pendant la fête de Pentecôte parce que c'est une femme qui a eu beaucoup d'épreuves et que c'est quand on a eu beaucoup d'épreuves, on peut mieux comprendre la Torah. Cette explication ne me satisfait absolument pas. Je crois que ceux qui ont eu l'intuition de demander dans la tradition de lire le livre de Ruth pendant la fête de la loi avaient une idée bien plus forte, qui était justement, d'une certaine manière, de relativiser la loi et de la mettre à sa juste place. Parce que c'est grâce à Ruth que l'on évite, je crois, deux choses qui sont le légalisme et le sectarisme. Le légalisme qui consisterait à dire que ce n'est pas l'amour qui nous sauve, mais c'est l'obéissance, eh bien, justement, la tradition juive, normalement, n'est pas légaliste. Ce qui sauve, ce n'est pas l'obéissance, c'est l'amour. Et ça évite aussi le sectarisme, puisque je vous rappelle que Ruth n'était pas juive, c'était une étrangère. Le sectarisme qui nous dit que ce n'est pas l'appartenance religieuse qui compte, mais que c'est les qualités de cœur. Alors toute notre vie, je pense, doit être comme cela une imbrication de pratiques religieuses et de recherche de Dieu et de tout ce qui est finalement le seul but, c'est-à-dire l'amour fraternel, la bonté et la miséricorde. Le livre de Ruth nous enseigne que l'on n'est pas justifié par notre pratique, mais que pratiquer une religion n'est pas néanmoins inutile, parce que cela peut être un chemin qui nous aide à découvrir ce qui est important dans notre vie. La pratique religieuse et même l'amour de Dieu n'est pas secondaire, parce que aimer directement son prochain est une chose difficile, voire impossible. Donc je pense que l'humanisme pur est condamné à l'échec, en quelque sorte. Et dire « moi, ma religion, c'est de dire il faut aimer les autres », c'est quelque chose d'impossible. Parce que, fondamentalement, je vais vous l'avouer, l'autre n'est pas aimable. Et l'autre n'est pas facile à aimer. Et donc, on ne peut vraiment aimer l'autre que si on aime, par principe, l'autre, je dirais. C'est-à-dire si on fait de l'amour un principe fondamental et si on a une raison d'aimer l'autre par-delà le fait d'aimer l'autre. Et c'est ça la foi. J'aime l'autre parce que j'aime Dieu qui est derrière l'autre. La tradition chrétienne a souvent dit, en particulier à partir de ce jugement des nations, qu'il faut voir dans le prochain l'image même du Christ. C'est-à-dire que le prochain, c'est le Christ en quelque sorte, déguisé en prochain imparfait. Eh bien, ce n'est pas faux, mais cela montre que pour aimer l'autre, il faut arriver à aller au-delà de la vision pure que j'ai de l'autre. Pour aimer l'humanité, il faut avoir, je dirais, une foi extraordinaire, parce que l'humanité n'est pas belle, l'humanité n'est pas aimable. Pour aimer le monde, il faut aimer le monde au-delà du monde, et pour aimer sa propre vie, il faut être capable de voir au-delà de sa propre vie. C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu, je dirais d'abord, et qu'il faut aimer son prochain ensuite. Et c'est pour cela que le Christ nous met toujours dans cette dialectique, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si l'on oublie l'un des deux, eh bien on tombe et plus rien n'est possible. Parce que si l'on n'aime que Dieu sans aimer son prochain, on ne peut plus aimer Dieu qui est le créateur de mon prochain. Et si je prétends aimer mon prochain sans aimer Dieu, je finirai par ne plus aimer mon prochain. La source du salut, c'est d'arriver à aimer. La religion, la pratique religieuse, nous apprend à aimer. La recherche de Dieu est une ouverture sur l'autre. Et le but, c'est effectivement que cet amour puisse devenir totalement désintéressé, totalement naturel, comme Ruth, qui ne faisait pas cela par devoir, qui ne le faisait pas, je dirais, en ayant l'impression de se sacrifier et de faire une chose extraordinaire. Elle est bien l'exemple de l'amour parce qu'elle le fait sans question. Elle le fait comme ça. Ça va de soi, c'est naturel et c'est évident. Mais vous remarquerez aussi que ce livre de Ruth n'est pas une critique si radicale de la loi parce qu'il y a au milieu de ce livre tout un passage que j'ai évoqué sans l'avoir lu parce qu'il est très long sur la question de la loi du Lévirat, c'est-à-dire la loi du rachat. Et ça, c'est bien une loi juive. Et donc, on voit qu'à un moment donné, eh bien, dans ces dimensions d'amour de Ruth, il y a un passage par la loi. Et que c'est ce passage par la loi qui va en fait structurer l'ensemble et qui va permettre à l'amour de fonctionner d'une façon féconde. Eh bien, ce n'est pas idiot. Tout à l'heure, je disais que Ruth ignorait les commandements. J'ai l'impression qu'elle les connaissait très bien, la maline, puisqu'elle sait très bien, je dirais, les utiliser quand il faut auprès de Boaz. Ce qui fait que vous voyez que même dans Ruth, il y a ce mélange, je dirais, d'un amour, je dirais, désintéressé et naturel pour le prochain, et aussi d'une loi qui, à un moment donné, permet de structurer, permet de mettre de l'ordre, permet de créer un chemin, de tracer une route, de pousser les pierres et de permettre à l'amour de s'accomplir et de devenir fécond. C'est comme ça que je comprends la loi. La loi qui apprend à aimer, certes, mais surtout la loi qui, finalement, permet de dépasser les obstacles de l'amour. Parce que dire « il faut aimer, il suffit d'aimer », c'est très bien, mais vous savez que aimer, c'est difficile et que parfois l'amour bute sur un certain nombre de choses. Et l'amour, parfois, devient impuissant parce qu'il est imparfait en nous. Et c'est à ce moment-là que, la pratique la discipline spirituelle, la vie même de la religion, l'obéissance, la fidélité à sa foi permet de continuer sa route, même si l'amour est vacillant ou se présente tout à coup comme incapable ou comme insuffisant. Et quand nous arrivons à tout cela, alors comme Ruth, nous pouvons avoir des enfants. Des enfants pas forcément dans la chair, mais notre vie peut transmettre quelque chose de positif et nous pouvons effectivement donner ainsi aux autres et donner la vie. Comme Ruth, qui a donné naissance au Christ, c'est-à-dire à une dimension christique, et comme le Christ qui a vaincu la mort, ainsi ce chemin de fécondité présenté par Ruth, eh bien c'est le chemin qui ouvre la porte de ce qui peut être Christ en nous, c'est-à-dire de l'amour, de la vie, du pardon, de la paix, de la joie et de l'éternité. Amen.